Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons, si vous le voulez bien, passer ensemble ces 30 prochaines minutes, une demi-heure que nous souhaitons le plus agréable possible avec des interventions qui veulent donner aussi un peu de grain à moudre à notre méditation, à notre cheminement aussi. Ce sera avec Daniel Coronès d'ici quelques instants, mais aussi Didier Roca et juste avant, tout de suite d'ailleurs, le groupe Face à Face. Heureusement.
Ses épaules ne sont pas faites pour tout porter, et ses bras ne sont pas faits pour tout soulever. Ce dos n'a pas été fait pour t'en supporter. Je ne suis pas fait pour ça.
Que l'on peut compter sur cette présence à nos côtés, c'est effectivement une des caractéristiques premières de ce qui donne à la vie de celles et de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu une dimension toute particulière. Face à face, heureusement, heureusement que l'on peut compter sur Dieu, heureusement que Dieu s'intéresse à nous, heureusement qu'il nous tient dans sa main. Didier Roca.
Voici. Je t'ai gravé sur mes mains, dit Dieu, par la plume et par la bouche du prophète Ésaïe. Dans une société qui nous uniformise et qui nous taille tous sur un même moule, au sein d'une foule où il nous arrive tous à un moment ou à un autre de nous sentir seuls et de penser que personne ne s'intéresse à nous, vivant dans un monde qui nous laisse dans les tripes l'amertume de l'égoïsme et du non-respect de la dignité humaine, cette parole de la Bible est porteuse d'un véritable message d'espoir pour chacun. Dieu a gravé mon nom, votre nom, sur ses mains. Quel outil merveilleux que la main! C'est avec la main que j'écris ces quelques lignes. C'est avec la main que nous dessinons, que nous bâtissons et que nous façonnons toutes sortes d'objets. La main, c'est celle d'une mère ou d'un père qui prend la main d'un enfant pour donner de l'assurance à sa marche, en l'empêchant de tomber, ou encore celle qui va le retenir pour lui éviter un danger. C'est la main de l'amour qui sert celle de l'être aimé pour traverser ensemble l'existence. C'est à la main gauche que je porte l'alliance qui témoigne de mon union avec mon épouse, l'amour de ma vie. C'est toujours la main qui caresse pour exprimer la tendresse. C'est aussi avec elle qu'on corrige parfois un enfant désobéissant. C'est encore avec la main qu'on montre la direction en pointant l'index vers celle qu'il faut prendre pour atteindre le but. On fait aussi un signe de la main pour saluer un voisin ou pour attirer l'attention d'une personne avec qui nous voudrions parler. C'est une main secourable que nous tendons vers celui qui a besoin de secours pour son quotidien. C'est aussi la main que nous tendons pour être soi-même relevé. C'est la main qui protège mon visage d'un choc ou mes yeux de la lumière du soleil. C'est la main qui saisit les objets de la vie quotidienne. C'est enfin elle qui porte à ma bouche le pain et la nourriture qui sont nécessaires à ma vie. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, dit Dieu. Cette parole dit d'abord que Dieu connaît chacun de nous et que rien ne peut nous effacer de sa mémoire puisque notre nom est gravé sur lui, sur ses mains. Ailleurs dans la Bible, Jésus dit que Dieu connaît jusqu'au nombre de cheveux qui coiffent notre tête et que pas un ne tombe sans qu'il le sache. Avouez que c'est extraordinaire. Dieu sait sur moi bien des choses que j'ignore et dont je me soucie finalement pas. Connaître le nombre de cheveux encore présents sur le sommet de mon crâne n'a pas pour moi un grand intérêt. Cette parole signifie simplement que Dieu connaît chacun de nous de A jusqu'à Z. Si j'osais une comparaison, je dirais que Dieu porte à la main l'alliance qui témoigne de son amour et de son union avec moi. C'est une alliance permanente, indestructible. Mais cette parole va bien plus loin. Elle signifie que la main de Dieu est dans ma vie. Cette main qui est là pour me secourir, me protéger, me conduire, ainsi que pour nourrir ma vie, cette main exprime tout l'amour de Dieu pour moi et pour chacun d'entre nous. C'est enfin Jésus qui est venu me tendre la main en se sacrifiant pour que moi je vive. En lui faisant confiance, en mettant ma main dans la sienne, c'est ainsi que Dieu devient mon Père et rien alors ne peut m'arracher à son amour. Sa main me tient. Se présentant comme le berger qui s'occupe de son troupeau de brebis, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Ami auditeur, ton nom est gravé dans la main de Dieu. Tu n'as plus qu'à mettre ta main dans la sienne pour le laisser prendre soin de toi, aujourd'hui, et jusque dans l'éternité de son royaume de paix et de lumière.
Faire mugir ses flots.
Label 7, en écho à ce que Didier Roca a partagé avec nous. Une invitation à venir saisir cette main qui nous est tendue, venir chercher auprès de Dieu ce réconfort dont on a parfois tous besoin. Félana. Félana, une chanteuse malgache qui chante en français, vient.
Si tu te perds et tu sais plus d'où vient le vent, si la chimère emplit de
Pour découvrir effectivement qui est Dieu, il faut le rencontrer. C'est d'ailleurs ce que Daniel Coronès nous invite sans plus attendre à découvrir.
Jules Renard disait « Dieu, celui que tout le monde connaît de nom ». Pourquoi je crois en Dieu ? Parce que Dieu existe, parce que ça m'aide à vivre, parce que j'ai peur de la mort, parce que c'est ma culture. Il paraît qu'un Français sur 10 se dit croyant. D'après un sondage CSA entre 1986 et 2001, la proportion de pratiquants est passée de 85% à 78%. Les femmes, paraît-il, sont plus croyantes que les hommes et on devient de plus en plus croyant avec l'âge. Alors croire qu'il existe un Dieu, faut le dire, change complètement la perspective de la vie d'un homme, quel que soit le Dieu auquel il croit. C'est logique, puisque l'homme croyant n'est plus lui-même le centre et le chef de l'univers, mais il accepte l'existence d'un être supérieur. Certains vont vous répliquer que la croyance a provoqué, à certaines époques, les guerres les plus sanglantes et que le XXIe siècle nous réserve encore bien des surprises. Au nom, bien sûr, de la croyance en un Dieu. La preuve en est la destruction des deux tours du World Trade Center un certain 11 septembre 2001. Pourquoi je crois en Dieu ? Les réponses sont aussi variées que les dieux auxquels les êtres humains croient. Il est donc très difficile de répondre à cette question. Chacun répond à cette question en fonction de son éducation, de sa culture et de ses aspirations profondes. En ce qui me concerne, pour répondre à la question « Pourquoi je crois en Dieu ?», je vais nous conduire dans un texte de la Bible. Ce texte se trouve dans le chapitre 9 de l'Évangile de Jean. C'est l'histoire d'un homme, aveugle de naissance, qui rencontre Jésus. Jésus guérit cet homme en appliquant un peu de boue et de salive sur ses yeux. Sur son ordre, l'homme va se rincer dans une réserve d'eau appelée le réservoir de Siloé. Il revient guéri. Parmi ceux qui le connaissaient auparavant, cet homme trouve l'admiration, l'étonnement, mais aussi et surtout de l'incrédulité. Cet homme ne tarde pas à se retrouver devant les chefs religieux, les pharisiens de l'époque, et ces derniers vont même faire venir ses parents pour les interroger. Ces religieux têtus vont alors faire venir une seconde fois l'homme guéri pour l'interroger. Pour moi, dans l'histoire de l'aveugle de naissance, Jésus est le révélateur de deux aspects qui me permettent de répondre à la question « Pourquoi je crois en Dieu ?» Premièrement, Jésus est le révélateur de ce que nous mettons derrière le mot « croire ». Jésus, dit le texte, cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va et lave-toi ». Pour opérer une guérison, Jésus utilise rarement un élément extérieur. Ici, il utilise de la boue et de la salive. Alors, en quoi ce procédé fait de Jésus le révélateur de ce que je mets derrière le mot « croire » ? Eh bien, je crois en Dieu, parce qu'en Jésus, Dieu désire se faire mon intime. Les Juifs religieux étaient des amis de Dieu, mais par personne interposée. Quelques rares privilégiés de l'Ancien Testament ont été les amis directs de Dieu. Abraham et Moïse ont été appelés « amis de Dieu ». Les Juifs religieux bénéficiaient en quelque sorte de l'amitié de Dieu, mais au travers d'Abraham et de Moïse. Une amitié lointaine, indirecte et surtout impersonnelle. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, c'est-à-dire Jésus, nous ne savons d'où il est, dit le texte que je vous ai cité, au verset 29. Moi, j'ai l'ami d'un ami qui connaît bien le célèbre acteur Mel Gibson. Nombreux sont ceux qui définissent la croyance en Dieu de cette manière. Très peu de gens ont compris que Jésus a changé complètement cette situation. À ceux qui ont pris le risque de l'écouter, de s'approcher de lui et de lui faire confiance, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean chapitre 15 verset 15. « Je vous ai appelé ami. » Jésus ne dit pas « Je vous ai appelé musulman, catholique, protestant ou évangélique. » Le mot « ami » ne correspond pas à une étiquette religieuse ou à une connaissance de Dieu par personne interposée, mais à une relation personnelle, étroite, intime. Comme pour cet aveugle de naissance, Dieu désire rentrer en contact intime avec nous. Dieu veut ouvrir nos yeux sur son amour et sur sa présence réelle. Pourquoi je crois en Dieu ? Première réponse, parce que je suis intimement lié à lui, au travers de Jésus-Christ, Dieu est devenu mon meilleur ami. Voici le second aspect. Jésus est le révélateur des intentions cachées de notre cœur. Le texte dit « Que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » La question est posée donc à l'aveugle guéri. Jésus dérange le religieusement établi, le religieusement correct. Il guérit un jour de sabbat. De ce fait, lui donner le titre de prophète devient un blasphème. Un prophète, ça obéit aux règles établies, enfin. Soit il est vraiment un prophète, bien plus Dieu lui-même, et il est en droit de modifier ce qu'il a lui-même établi, soit il est un imposteur. Mais alors, comment peut-il rendre la vue à un aveugle? L'interrogatoire des pharisiens a pour but de trouver dans le récit un fait qui discréditerait Jésus. Le problème, c'est qu'il y a un miracle. Comme on dit, il y a un cadavre dans le placard. Comment faire ? Discréditer le miracle ? Impossible. L'aveugle a tellement vécu quelque chose d'irréfutable que ses réponses débordent même d'ironie. « Mais je vous l'ai déjà dit, dit-il. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» En voilà un qui n'a pas la langue dans sa poche. « Si moi j'étais aveugle, vous, vous êtes sourd, dit-il. » L'aveugle n'a pas fait de hautes études théologiques, mais il en sait au moins un petit principe. « Nous savons !» Il le dit, nous savons, et c'est trop beau, que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Nous savons, nous, simples juifs, lecteurs de la Torah, peut-être parfois médiocres croyants et pratiquants, voilà que notre mendiant ex-aveugle est en train de donner un cours d'école du dimanche aux spécialistes de la question religieuse. Bien sûr que tout Israélite sait qu'un miracle est un exaucement de prière, et que la prière du méchant n'est pas exaucée, dit la Bible. Enfin, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ce genre d'incrédulité révèle que nombreux sont ceux qui ont l'intention de ne pas vouloir croire. C'était le cas des pharisiens dans cette histoire rocambolesque. Il faut savoir que les adversaires des miracles, dans l'histoire religieuse, résonnent exactement de la même manière qu'eux. Le surnaturel ne peut pas être. Si je vous dis que j'étais aveugle et que maintenant je vois, quelle est votre réaction ? Crédulité ou incrédulité ? Suis-je un illuminé de plus ? Un mystique ? Pourquoi je crois en Dieu ? Deuxième réponse, parce que Jésus m'a ouvert les yeux. Il a changé mon regard sur moi-même, sur ma vie et sur le monde qui m'entoure. Plus rien n'est comme avant. En conclusion, je voudrais vous poser cette question que Jésus a posée à cet aveugle qui a retrouvé la vue, cet aveugle guéri. Crois-tu au Fils de Dieu ? La question est posée à l'aveugle guéri et elle est aussi posée à chacun de nous. Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu ? Croire au Fils de Dieu va beaucoup plus loin que croire en Dieu. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Je vous rappelle que Jésus est l'image du Dieu invisible, Dieu incarné, Dieu fait homme, et c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je crois en Dieu doit commencer par l'aveu sincère que je suis aveugle spirituellement à cause de mon péché. Je dois admettre que le Fils de Dieu a pris sur lui le châtiment qui m'était réservé. Permettez-moi de vous poser une question brûlante. Où sont vos péchés ? La Bible dit bien que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Je crois en Dieu doit signifier que vous êtes en paix avec Dieu. Lorsqu'un aveugle se met à voir, il découvre un monde merveilleux, un monde de dimensions et de perspectives. Si vous pensez que votre vie sera plus agréable sans Jésus, vous vous trompez, vous êtes dans l'illusion. Car est-il plus agréable de voir ou d'être aveugle ? Cet homme qui était aveugle a trouvé la lumière dans une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Cette magnifique expérience peut aussi devenir la vôtre dès aujourd'hui. Voulez-vous devenir l'ami intime de Jésus ? Voulez-vous que Jésus change votre regard sur vous-même, sur votre vie et sur le monde qui vous entoure? Voulez-vous être libéré du poids du péché qui pèse sur votre tête? Voulez-vous recouvrer la vue? Voulez-vous être réconcilié avec Dieu? Voulez-vous dire enfin sans hypocrisie, « Je crois en Dieu » Venez à Jésus, afin de dire à votre tour, « J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. »
Pour celui qui voudrait me suivre, je suis le bon berger. Je l'invite à marcher à ma suite, sur des chemins de liberté. Ceux qui sont venus avant moi ont maltraité les brebis. Je suis venu sur terre pour leur donner la vie qui jamais ne finit. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour sauver ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais chacune des brebis. Je suis connu d'elles. Comme le Fils et le Père se connaissent depuis les temps éternels.
C'est John Featherstone qui, pour terminer ces instants, nous rappelle que Jésus veut être pour chacun de nous un bon berger, celui qui s'occupe de nous, qui nous conduit aussi vers de verts pâturages. Je vous souhaite de faire aussi cette découverte, cette rencontre. À bientôt. Ce programme vous a été proposé par la Mission internationale de linguistique et Transvol Radio Europe.
Donne sa vie.